journal des sciences.
Et on commence ce journal des sciences par cette équipe de chercheurs français qui a découvert pour la première fois une exoplanète en cours de formation grâce à sa signature dynamique.
Et ces résultats suscitent l'enthousiasme dans la communauté scientifique. Ils ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters cette semaine. Cette planète dont on parle, elle est située à l'intérieur du disque de matière HD 163-296, c'est le nom assez sexy de cette galaxie. Il orbite par définition donc autour d'une autre étoile que le Soleil, bien sûr. Une étoile toute jeune, à peine âgée de 4 millions d'années. Christophe Pintz de l'université de Monash en Australie l'a détectée grâce à l'interféromètre ALMA. Et c'est la première fois qu'un signal dynamique permet la détection d'une telle planète.
Cette étoile est située à 330 années-lumière de la Terre. Et on s'est intéressé à cette étoile parce que c'est une étoile jeune, elle a que quelques millions d'années, et c'est une des étoiles jeunes qui est la mieux connue, dont le disque protoplanétaire est le mieux connu. Il y a des images qui ont été obtenues dans le domaine visible avec le télescope Hubble, par exemple. Et donc c'est un disque qui est particulièrement intéressant. Le but initial de ces travaux n'était pas de chercher une planète, en fait, c'était d'essayer de comprendre la structure des disques de gaz et de poussière qui tourne autour des étoiles en cours de formation. Donc on a utilisé l'interféromètre ALMA au Chili pour essayer de mesurer le contenu en gaz dans le disque. Et donc ces disques, à cause de la gravité de l'étoile centrale, sont en rotation autour de l'étoile et donc ont un champ de vitesse qui est bien connu. On a découvert qu'il y avait une anomalie. On a vu que la vitesse de rotation n'était pas conforme à ce qu'on attendait. Et c'est un peu comme si vous imaginez une petite rivière dans laquelle il y a un caillou. Si vous mettez un caillou au milieu de la rivière, ça va générer une espèce de vague. Et donc, ce qu'on a détecté, c'est cette vague au sein du disque. Et donc, ça nous indique qu'il y a un corps dans le disque. Alors, on pense que c'est une planète parce que la déviation du champ de vitesse qu'on voit dans le disque est très localisée. Elle est à un seul endroit, une certaine distance donnée et un certain angle par rapport à l'étoile. Pour produire cette déviation, il faut qu'il y ait localement un objet. Et ce qui nous fait penser que c'est une planète, c'est parce qu'en comparant avec des simulations numériques où on met justement une planète en rotation autour d'une étoile dans un disque, la déformation que l'on observe correspond exactement aux prédictions d'un modèle avec une planète dont la masse est deux fois la masse de Jupiter.
Et si cette découverte venait à se confirmer, elle permettrait d'améliorer considérablement nos modèles de connaissance de formation des planètes.
Et parce qu'il faut le dire quand même, aujourd'hui, jusqu'ici, on n'a pas beaucoup, voire mal, enfin en tout cas mal observé la formation des planètes. En tout cas, à chaque fois qu'un article annonçait avoir trouvé une exoplanète en formation, c'était surtout grâce à de l'imagerie, donc pas par rapport à des calculs. Et ces découvertes n'ont jamais pu être confirmées, c'est-à-dire que d'autres télescopes n'ont jamais confirmé ces annonces. Ici, plusieurs télescopes, dont le VLT, le télescope géant de l'ESO, qui est au Chili, vont scruter HD 163-296 en sachant exactement où chercher pour confirmer cette découverte. Et si on avait vraiment affaire à une planète, eh bien les modèles théoriques dont on dispose pour expliquer la naissance des planètes aujourd'hui risquent d'être sacrément bouleversés. Pourquoi ? Parce qu'aucun des deux scénarios établis qu'on connaît, en tout cas qu'on a prévu pour la naissance de planètes, ne permet d'expliquer la présence de celle-ci dans ce disque. M'expliquait François Ménard, il est chercheur à l'Institut d'astrophysique de planétologie de Grenoble et c'est l'un des co-auteurs de cet article.
La perturbation de la planète qu'on trouve, elle est relativement loin de son étoile centrale, à quelques centaines d'unités astronomiques. Et puis les théories actuelles de formation des planètes prédisent que de telles planètes en formation ne devraient pas exister. Et pourtant, on les voit. Les deux théories les plus en vogue, c'est soit le disque entourant l'étoile est très massif, auquel cas il serait autogravitant, si vous voulez, ou instable face à la gravité. Donc le disque lui-même pourrait s'effondrer sous l'effet de la gravité et former quelques petits cœurs moléculaires ou amoncellements de matière qui s'effondreraient sous l'effet de la gravité pour former des planètes. Dans HD 163-296, on pense pouvoir estimer la masse du disque. Elle est trop faible pour que le disque soit autogravitant. Donc, si la planète est en formation aujourd'hui, c'est pas sous l'effet de l'autogravité ou d'une instabilité gravitationnelle. On ne croit pas. L'autre mécanisme pour former des planètes, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la core accretion model. C'est un certain nombre de cailloux, de roches, de planétésimaux qui finissent par former un cœur rocheux, donc de quelques dizaines de masses de la Terre, et qui devient suffisamment massif pour attirer, par sa propre gravité, une quantité énorme de gaz pour éventuellement former une planète géante, Jupiter ou Saturne, par exemple. Le problème avec cette théorie, c'est que pour former le cœur rocheux de quelques masses terrestres, ça prend du temps. On pense que HD 163-296 est trop jeune, que ce mécanisme-là n'aurait pas nécessairement eu le temps de se produire, mais c'est dans ce sens-là que des découvertes comme celles qu'on vient de faire demanderont peut-être des révisions des modèles.
En bref, le LHC, le grand collisionneur de Hadron, se fait une petite cure de jouvence, Zoé.
Tout à fait. Eh bien, il deviendra un LHC à haute luminosité à partir de 2026. Les travaux débutent cette semaine, ont indiqué en conférence de presse ce matin les équipes du CNRS et du CEA, parce que je rappelle que la France contribue de manière importante à ce projet, à hauteur de 180 millions d'euros, masse salariale incluse. Il s'agit donc d'améliorer la luminosité du collisionneur, qui est déjà en service depuis 2008, d'un facteur 5 pour concentrer le maximum de particules dans l'espace le plus réduit possible et ainsi augmenter le nombre de collisions au moment du croisement des deux faisceaux de protons. Ça permettra notamment aux scientifiques d'étudier des phénomènes rares, d'obtenir des mesures de grande précision, indispensables pour bien comprendre les propriétés du fameux boson de Higgs.
Et puis le retard dans la nomination du nouveau directeur de l'INSERM est dénoncé par le journal The Lancet, qui parle de la grande opacité du processus.
Elle était censée intervenir le 12 juin, la nomination du nouveau directeur de l'INSERM, et elle a pris du retard alors que l'éventuelle reconduction à la tête de cet institut du professeur Yves Lévy, qui est le mari d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a suscité des controverses. Dans un édito au ton assez inhabituel, la revue prestigieuse médicale britannique The Lancet pointe, je cite, un potentiel conflit d'intérêts et juge que la situation crée, que la réputation du milieu scientifique français a été endommagée par ce potentiel conflit d'intérêts. Elle a revu déplore que l'identité des candidats et le processus de nomination du nouveau directeur restent encore entourés d'incertitudes et note que parmi les 8 candidats en lice, seuls 2, Philippe Frogel et Jessica Zuckmann-Rossi, ont rendu leur candidature publique.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, l'état de l'Antarctique en 2070 dépend des choix qui seront faits dans les 10 ans à venir, indique une étude internationale et multidisciplinaire parue dans la revue Nature.
Et ce futur, il peut être soit catastrophique, soit assez radieux. En tout cas, cette étude présente deux scénarios extrêmement contrastés qui sont tous les deux plausibles. Ces auteurs sont tous lauréats du prix prestigieux Tinker Muse pour leur recherche autour du continent antarctique. Ils sont soit experts dans des domaines très variés, la biologie, l'océanographie, la glaciologie, la géophysique, les sciences du climat. Parmi eux, on retrouve la paléoclimatologue au CEA, Valérie Masson-Delmotte.
Alors, un premier scénario, c'est un scénario de la poursuite d'un mode de développement qui n'est pas durable, où la pression sur les ressources, y compris minières, y compris alimentaires, marines, augmente sans cesse. Et dans ce cas-là, en 2070, on aura des bouleversements majeurs dans une région qui semble pourtant éloignée, l'Antarctique, un réchauffement en Antarctique comme en moyenne globale, l'effondrement de certains écosystèmes particulièrement uniques, le krill qui est une sorte de petite crevette qui est à la base de l'écosystème de l'océan Austral, et puis les espèces plus visibles de manchots. Un monde très différent en Antarctique, mais ce qui se passe en Antarctique n'y reste pas. Et donc des conséquences aussi à grande échelle, puisque le fait de déstabiliser certaines plateformes de glace flottantes entraînera à ce moment-là, pendant plusieurs siècles, une montée extrêmement importante du niveau des mers. Alors l'autre scénario, c'est un monde de coopération, de développement soutenable, avec une transition, donc une décarbonisation. Dans ce cas-là, pour l'Antarctique, les conséquences, elles sont assez minimes. Un réchauffement de moins de 1 degré de plus qu'aujourd'hui, un réchauffement limité de l'océan Austral, une petite perte de l'extension de banquise en été, un petit amincissement des plateformes de glace flottantes, mais qui n'entraîne pas une déstabilisation de l'écoulement de la glace stockée sur le continent. Alors, en ce qui concerne l'évolution future du climat, de la biodiversité, on s'appuie de plus en plus sur ce travail de scénarisation. Dans cet article, on l'a fait de manière plus simplifiée, on l'a fait pour étayer des narratifs délibérément contrastés, mais les deux sont plausibles, faisables. Et les choix qui vont être faits ou qui ne seront pas faits dans les 10 ans à venir vont jouer un rôle important sur les conséquences d'ici à 2070.
Et en bref, une étude publiée dans la revue Science estime que l'expansion humaine conduit de nombreux animaux à adopter un mode de vie nocturne.
Et oui, en se concentrant sur 76 travaux de recherche conduits sur 5 continents depuis plus de 25 ans, les chercheurs ont recueilli des données concernant l'équilibre entre jour et nuit de 62 espèces selon qu'elles se trouvaient exposées ou non à la présence humaine. Et 83% des études font apparaître une augmentation du temps de vie nocturne en présence des humains. C'est considérable pour certaines espèces, dans des proportions notables. En moyenne, les mammifères ont vu leur nocturne nocturnalité croître d'un facteur 1,36. Plusieurs gouffres chez plusieurs animaux, par exemple chez les léopards du Gabon. Ils sont nocturnes à 46% dans les zones non soumises à la chasse et nocturnes à 93% là où les hommes les traquent.
Et puis la grande majorité des plus vieux baobabs d'Afrique est en train de disparaître.
9 des 13 plus vieux baobabs du continent, âgés de plus de 5000 ans, sont morts au cours des 12 dernières années. Une mortalité d'une ampleur sans précédent frappe ces arbres emblématiques de la savane. Alerte en début de semaine des chercheurs dans une étude parue dans Nature Plants. Ils évoquent le dérèglement climatique comme possible cause de cette disparition. Ils n'en ont pas de preuves, mais la région dans laquelle les baobabs millénaires sont morts est l'une de celles où le réchauffement climatique est le plus rapide en Afrique.
Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de Science Improbable, puisque c'est tout un week-end consacré au sport et à la Coupe du Monde de football sur l'antenne de France Culture, eh bien on va précisément parler d'une étude en neurosciences qui confirme qu'être supporter rend fou.
Oui, mais c'est une folie douce. Parlons peu, parlons sport. Cette étude, elle émane de neuroscientifiques français et brésiliens qui s'intéressent à l'activité cérébrale qui est liée à des comportements altruistes qui traduisent un phénomène d'identification au groupe. Alors évidemment, le supporter est un sujet idéal en la matière, puisqu'il permet de disposer d'un groupe naturel, finalement, où le sentiment d'appartenance est réel. Alors, ils ont recruté où ça ? À Rio, la ville du foot par excellence. 27 supporters des principaux clubs de la ville. J'ai des invités en studio. Est-ce qu'ils les connaissent ? On ne sait pas. Botafogo, Flamengo, Fluminense et Vasco da Gama. Personnellement, j'aime beaucoup Flamengo. Il s'agissait de les soumettre à un test de motivation un peu particulier pendant que leur cerveau était observé par IRM. Alors l'idée, c'était chaque sujet devait actionner d'une main un capteur de force pour gagner une somme d'argent proportionnelle à l'effort fourni. Autrement dit, plus les participants appuyaient, plus la somme était importante. Il y avait trois types d'efforts proposés. Dans le premier cas, l'argent revient à celui qui appuie. Dans le deuxième, il revient à d'autres, aux supporters de son équipe. Et dans le troisième, à des supporters d'une équipe adverse. Alors bon, effectivement, on s'est très vite rendu compte qu'on gagnait plus d'argent pour ses propres supporters, mais on gagnait toujours plus d'argent pour soi. Mais l'intérêt de l'expérience réside ailleurs. Il est apparu que les supporters agissaient vis-à-vis des autres supporters de leur équipe, même des parfaits inconnus qu'ils n'avaient jamais vus, de la même façon qu'ils le feraient avec des membres de leur famille, puisque la partie médium du cortex orbitofrontal, qui s'active dans les trois configurations du test, nouait des connexions extrêmement fortes avec le cortex singulaire antérieur lorsque l'effort était fait pour un fan de l'équipe, pas pour soi, pas pour celui de l'autre. Or, cette deuxième zone du cerveau, elle est connue pour être impliquée dans les comportements altruistes et les sentiments d'affiliation à un groupe, en particulier à la famille. Une connectivité fonctionnelle donc, qui montre qu'il y a un lien très fort, mais qui a un phénomène d'appartenance qui peut aussi être source de solidarité, mais aussi de fanatisme. C'est ce qu'on voit par exemple dans des crimes liés à la famille.
Vous êtes juste en train de nous dire que les neurosciences nous disent que les supporters sont des grandes familles.
Ils sont très mignons, mais en même temps, ils peuvent faire des folies, comme ils le feraient pour leur famille, sauf que quand même, ils ne les connaissent pas. C'est un petit peu la chose étrange.
Merci beaucoup Zoé, on vous retrouve la semaine prochaine.